Sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez. Chers auditeurs, aujourd'hui, une nouvelle émission avec le service de santé universitaire. J'ai donc le plaisir d'avoir avec moi en studio Morgane. Bonjour.
Bonjour.
Alors Morgane, vous représentez ici la mission handicap.
Oui.
Et avec nous, il y a également Carla. Bonjour Carla.
Bonjour.
Ah, alors Carla, rebonjour. Avec le bon micro, ce sera mieux. Bonjour Carla.
Bonjour.
Et alors Carla, étudiante relais santé.
Tout à fait.
Voilà, donc chers auditeurs, le sujet du jour, vous l'aurez compris, c'est la mission handicap. Alors peut-être tout d'abord expliquer à nos auditeurs, c'est quoi la mission handicap ?
Alors la mission handicap, historiquement, elle est dans l'université depuis 2010, je crois, dans ces années-là. Au départ, c'était une unité qui s'occupait des étudiants et du personnel en situation de handicap, qui depuis 2016 a été scindée pour être deux entités à part entière. Donc il y a la mission handicap des personnels située aux ressources humaines, et puis il y a la mission handicap qui a intégré le service de santé universitaire avec ces deux chargés d'accompagnement handicap et qui là va aider les étudiants tout au long de leurs études à mettre en place des aménagements pour pallier à leurs difficultés rencontrées au quotidien.
Et alors Morgane, cette mission handicap, c'est une obligation légale dans les universités ?
Oui, c'est une obligation dans les universités d'avoir cette entité pour lutter contre les discriminations, notamment avec la loi de 2005 en fait, promulgue l'intégration de toutes les personnes en situation de handicap dans le monde scolaire. C'est une obligation pour toutes les universités en France d'avoir cette cellule pour accueillir les étudiants et les accompagner.
Alors handicap, peut-être avant de détailler plus quelles sont vos missions et tout ce que vous faites, peut-être qu'on peut se pencher sur ce qu'est le handicap, parce que c'est plein de choses.
Alors nous, en fait, à sens propre du terme, c'est vrai qu'on peut penser handicap à partir du moment où on est dans un fauteuil roulant ou qu'on a une canne blanche, ce qui en fait n'est pas forcément le cas pour tous les étudiants qu'on rencontre. C'est vrai que on va rencontrer des personnes avec des troubles moteurs ou des troubles de la vision. Mais nous, on va considérer handicap, je dirais même besoin spécifique. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez une difficulté, une situation au niveau de votre santé qui va avoir un retentissement dans vos études. Donc nous, au niveau du handicap, on va prendre au sens large du terme. Par exemple, la phobie scolaire peut se révéler être un handicap pour un étudiant. Et ça va avoir un retentissement sur ses études. Il ne peut pas aller en cours, mais il a besoin d'aide pour qu'on puisse l'aider à continuer de suivre les cours. Donc vraiment, nous, on va entendre au sens très très large le mot handicap, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un retentissement, où la situation de la personne a un retentissement dans ses études. Ça va l'impacter pour suivre les cours correctement au quotidien.
Donc vous l'avez cité, il y a le handicap moteur, les handicaps sensoriels.
Ouais.
Mais donc il y a aussi peut-être les handicaps qui ne se voient pas,
oui.
Donc la phobie scolaire, mais il y en a d'autres.
Le handicap invisible, il y en a plein. Il y a la dyslexie, ça ne se voit pas. Les troubles psychiques, ça ne se voit pas, forcément. Dans les troubles invisibles, handicap invisible, ouais, c'est ceux auxquels je pense là. Après, la surdité ne se voit pas aussi. Forcément. Donc, il y a effectivement tous ces handicaps invisibles que nous, on va accueillir et on va accompagner aussi tout au long de leurs études.
Alors, comment ça se passe quand on est un étudiant porteur d'un handicap, quel qu'il soit ? Comment on se met en lien avec vous ? C'est quoi la démarche ? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on franchit la porte de votre bureau ?
Alors déjà, l'étudiant, il doit rencontrer le médecin de prévention du service de santé universitaire. Ça, c'est le passage obligatoire. Donc, c'est de rencontrer le médecin de prévention qui va mettre en place les aménagements d'examen. Donc, en fait, l'étudiant, il vient avec son dossier médical. Il vient avec les aménagements, s'il en a eu par le passé, il vient avec ses aménagements, en général, il vient avec ceux du bac. Et là, le médecin étudie un petit peu sa situation. Il met en place les aménagements d'examen qui sont valables un an, donc la première année, qui peuvent être mis en place pour le cycle licence les années suivantes, si la situation de la personne ne bouge pas et si on sait que son handicap est stable. Je dirais, par exemple, la dyslexie, c'est quelque chose qui va pas évoluer dans le temps. Là, les aménagements d'examen peuvent être envisagés pour le cycle licence à partir de la deuxième année. Mais sinon, l'étudiant sera invité à revenir tous les ans refaire ses aménagements d'examen auprès du médecin de prévention. Et à la suite de ce rendez-vous, parce que ce qui est quand même, ça représente quasiment tous les étudiants qui ont des aménagements, ils ont des aménagements d'examen. Et à la suite de ce rendez-vous, s'il y a besoin d'aménagement pour les cours, là, l'étudiant va rencontrer un chargé d'accompagnement pour les étudiants en situation de handicap, donc soit moi, soit ma collègue Sarah Hervio, pour mettre en place des aménagements pédagogiques. Donc on ne les rencontre pas tous, mais on en rencontre beaucoup.
Alors, quels aménagements sont possibles, par exemple?
Bah, il y en a beaucoup. Il y a, je commencerai par notamment les aides humaines, qui sont ce qu'on met le plus en place, notamment ce qu'on appelle la prise de notes. Donc, ce sont donc toutes les missions que là je vais vous évoquer, ce sont des missions qui sont assurées par les étudiants de l'université, par des pairs en fait. Donc la prise de notes, c'est ce qu'on met le plus en place. C'est en fait quelqu'un qui est dans la même promo que l'étudiant en situation de handicap, qui va prendre les notes pour lui. Eh ben lui, en fait, cet étudiant, on va le recruter, on va regarder un petit peu comment est sa prise de notes. Et si sa prise de notes est claire, lisible, là on va lui demander de nous fournir des documents, on va élaborer son contrat de travail. Et par la suite, on lui communiquera, à la signature de son contrat de travail, on lui communiquera le nom de l'étudiant à qui il devra envoyer les cours par mail. Et il doit nous mettre en copie une adresse qu'on a créée avec ma collègue, qui nous permet de vérifier que les échanges ont lieu et de voir que le preneur de notes fait bien son travail. Donc ça, c'est ce qu'on met le plus en place parce que en fait, l'université de Tours ne propose pas de formation à distance. Et les enseignants ne transmettent pas leur contenu de cours, je dirais. Les profs, ils vont transmettre les diapos, ils les mettent sur Célène. Par contre, le contenu, ce que dit le prof et que l'étudiant il est en train de noter, ça y est pas. Et donc, il faut bien que quelqu'un prenne en note et le transmette. Et nous, on a beaucoup d'étudiants qui sont empêchés de prendre des notes. Pour plusieurs raisons, et ils ont besoin de récupérer ça en fait, de récupérer le contenu du cours à proprement parler. Donc, on a besoin des preneurs de notes pour ça. Ça, c'est la plus grosse démission, je dirais.
Alors, il y en a d'autres.
Ouais, il y en a d'autres. Alors après, on peut mettre en place du soutien ou du tutorat. Donc là, ça va être un étudiant d'une promo supérieure qui va faire des cours de soutien ou de tutorat. Après, au niveau de la fréquence, nous, on le définit avec l'étudiant en situation de handicap lors de l'entretien. Donc, ça peut être 1 heure par semaine, 2 heures, ça peut être 2 heures tous les 15 jours, ça peut être 2 heures par mois. Et donc, l'étudiant qui est d'un niveau au-dessus va dispenser des séances à l'étudiant pour revoir la méthode, pour revoir les notions de cours. Donc, ça, c'est possible. Après, on a aussi l'accompagnement plutôt d'aide à la mobilité. Donc là, ça va être un étudiant qui va aider un étudiant dans ses déplacements. Par exemple, pour ouvrir les portes, pour se rendre d'un site à un autre, quand il va vraiment avoir besoin d'aide pour se faire guider. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aide à la mobilité. On a aussi la mission d'accompagnement à la BU. Quand il y a besoin d'aide pour récupérer des ouvrages, un étudiant... accompagnateur peut être recruté pour aider l'autre étudiant dans ses recherches à la BU. Et puis, on a aussi la mission de transcription, qui est un peu plus rare, mais qui peut avoir lieu quand on a un étudiant, par exemple, qui a besoin d'aide pour rédiger son mémoire, qui a besoin d'aide pour le taper. Et bah là, du coup, on va faire appel à un étudiant transcripteur qui va, du coup, bah, taper à l'ordinateur sous la dictée de l'étudiant. Et enfin, la dernière mission, ça va être le secrétariat d'examen. Donc, le secrétariat d'examen, ça consiste à écrire sous la dictée de l'étudiant pendant son examen. Donc, vous êtes dans une salle isolée, vous écrivez ce que vous dicte l'étudiant. Vous êtes sa main, en fait. Des fois ses yeux, s'il y a besoin d'un secrétaire lecteur. Et ça, c'est aussi un étudiant d'une promo supérieure, mais de la même filière pour avoir les mêmes compétences attendues lors de l'examen.
Donc tout ça, c'est des aides humaines
Oui.
très précieuses, mais est-ce qu'il y a aussi des aides matérielles? Donc des...
Oui. Il y a des aides matérielles. Alors là, ça va se décliner sous plusieurs formes. Je dirais des aides type ordinateur ou tablette, dictaphone, des coussins, des loupes numériques aussi, ça peut arriver. Donc ça, ce sont des aides qu'on établit via un prêt. C'est-à-dire qu'on fait ce prêt de matériel pendant une durée d'un an, parce qu'on n'en a pas beaucoup, beaucoup. On prête du coup le matériel via une convention de prêt avec une attestation de responsabilité civile. Ça, c'est ce qu'on demande à l'étudiant, en fait, pour le couvrir en cas de dommage. Et après, bah, c'est vrai qu'on l'invite aussi à s'équiper au cours de l'année, s'il le peut. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, il y a quand même l'aide au numérique qui est développée par l'université, qui a été reconduite suite à. Au début de la crise sanitaire. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont pu s'équiper, notamment avec des ordinateurs. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même bien. On s'en est rendu compte, cette année, on a fait moins de prêts que les années précédentes. Donc, ça peut effectivement aider les étudiants. Après, quand on est sur du matériel un peu spécifique et forcément très coûteux, parce que quand vous travaillez dans le milieu du handicap, vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce qui est spécifique, c'est très cher. Là, on invite les étudiants aussi à se tourner vers nos assistantes sociales au SSU, notamment une qui aide les étudiants dans la constitution de dossiers MDPH et qui, par le biais de ce dossier, peuvent demander aussi des aides pour s'acheter du matériel bien spécifique qui ne va pas leur servir que pour leur vie d'étudiant, mais qui va aussi leur servir pour leur vie quotidienne. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on essaye de mener avec eux pour que ben, ils puissent s'équiper de la meilleure façon qu'ils soient pour leur vie, tout simplement.
Alors peut-être juste préciser sur cette aide au numérique, c'est pour quels étudiants, c'est quel montant, comment ça marche?
Alors, les aides au numérique, si mes souvenirs sont bons, alors il y a la demande en fait qui est possible sur le site de l'université. C'est effectivement selon des critères de ressources. Effectivement, mais il peut y avoir une attribution entre 100 et 400 euros, je crois, pour s'acheter du matériel donc type ordinateur ou pour faire réparer du matériel aussi, si jamais le matériel tombe en panne. Et ça, bah, en fait, c'est sur le site de l'université.
Voilà, donc avis à la population, allez voir
Tout à fait.
sur le site. Et donc là, vous expliquiez que pour les examens, il y a donc ces aides humaines, lecteurs, transcripteurs, mais est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des choses comme des tiers-temps, enfin des aménagements du
Oui.
temps
Alors, pour les aménagements d'examen, il y a plusieurs choses qui peuvent exister. Effectivement, le temps supplémentaire, tiers-temps ou quart-temps. Après, il peut aussi y avoir des temps de pause. Il peut y avoir la composition sur ordinateur. Il peut y avoir l'accessibilité des locaux, être placé devant ou derrière, selon le besoin de l'étudiant. Il peut y avoir la reformulation ou relecture des consignes par le surveillant. Ça peut exister aussi. Il peut y avoir les documents adaptés également, s'il y a besoin de documents au format A3 grands caractères. Ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir aussi les salles isolées. Donc, un étudiant qui aurait besoin de composer dans une salle seule, avec la présence d'un surveillant, mais pas avec ses camarades. Ça, c'est possible. Après, bah, c'est selon la situation de l'étudiant, le médecin va voir ce qu'il est possible de faire aussi par rapport à sa situation. On ne peut pas tout faire parce qu'on est quand même régi par la réglementation des examens, mais on peut adapter énormément de choses en fonction de la personne.
Alors juste peut-être pour préciser à nos auditeurs, pourquoi un étudiant peut avoir besoin d'être seul dans une salle pour faire son travail?
Ben, par exemple, je pense aux étudiants qui vont être autistes, qui ne peuvent pas composer avec d'autres personnes parce qu'il va y avoir une hypersensibilité auditive, par exemple, et que le moindre bruit va les déranger en fait dans leur composition et carrément les stopper. Et ça, c'est une mesure qui peut être mise en place parce que la salle isolée va leur permettre d'être dans un calme pour favoriser la concentration et pour éviter les stimuli extérieurs pouvant les gêner pendant leur examen.
Et quel est le lien qui est fait avec les équipes enseignantes? Parce que du coup, si on a un étudiant ou une étudiante qui a une situation de handicap, qui a besoin d'aménager des épreuves ou des choses comme ça, comment vous faites le lien avec les enseignants?
Eh ben, alors nous, le lien, on le fait déjà par le biais de nos référents handicap. Donc, on a des référents handicap dans chaque UFR. On a le référent handicap administratif qui, lui, effectivement, va plutôt être dans les scolarités, les secrétariats. Et on a le référent handicap enseignant parce que nous, les aménagements qu'on fait, les aménagements pédagogiques, quand ils sont signés par notre médecin directeur, on les envoie à ces référents handicap. Donc, il y a l'administratif et il y a aussi l'enseignant. Donc le référent handicap enseignant a la mesure de l'étudiant sur lequel on va préconiser les aides, soit matérielles, soit humaines. Et ce référent handicap enseignant est en charge de diffuser l'aménagement auprès des enseignants de l'étudiant. Et de là, les enseignants sont invités à nous contacter si jamais il y a un souci dans l'aménagement pédagogique, enfin, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. On reste tout à fait disponible pour échanger, même pour les examens, même si ce ne sont pas nous qui. Parce qu'avec ma collègue, nous, on est que sur le pédagogique, les aménagements d'examen, c'est le médecin. Mais ils sont tout à fait invités, les enseignants, à contacter le SSU si jamais il y a une mesure qu'ils ne comprennent pas ou qui leur pose question. Après, c'est vrai qu'assez facilement, les enseignants nous contactent. Ils nous contactent, ils nous disent bah là je comprends pas du coup pour ce que vous avez mis en place est-ce qu'on pourrait s'entretenir? Et là on échange avec eux, on essaye de trouver des solutions parce que on ne peut jamais mentionner le handicap de l'étudiant, c'est le secret médical, donc il faut toujours expliquer sans dire on arrive tout à fait à se comprendre et à trouver les solutions et tout ce qu'il faut pour mettre tout ce qu'il faut pour mettre en place les.
Alors dire sans dire, mais
Oui, dire sans dire, ouais.
parce que le, secret médical, on entend bien. Et on peut supposer que certains étudiants n'ont pas envie non plus qu'on leur colle une étiquette auprès de leurs enseignants. Mais est-ce que, cela dit, il y a quand même peut-être des formations qui sont proposées aux enseignants qui le souhaitent, justement pour comprendre tel handicap, c'est ça, du coup ça entraîne telle chose, du coup les étudiants-là, ils ont besoin de ça parce que ils n'arrivent pas à faire telle chose ou telle autre.
Oui, il y a des formations qui leur sont proposées. Alors nous, on en a proposé par le passé, notamment sur les troubles psychiques. On arrivait plus à atteindre le personnel administratif que le personnel enseignant. Bah, après, les enseignants sont très pris, hein, c'est vrai, on le sait, ils sont très occupés. Après, je sais qu'ils ont aussi pas mal de ressources sur la plateforme du CAP, qui est vraiment la ressource de l'université pour les enseignants. Et pas mal de choses sont développées en fait, sur le site du CAP, notamment sur comment rendre mon cours accessible, mais vraiment dans tous les sens du terme. Où il y a même une vidéo de présentation de ma collègue et moi qui explique nos missions. Après, les formations sur le handicap en tant que tel, je sais aussi qu'elles sont proposées aux nouveaux arrivants. Enfin, je crois que ça fait 2 ans. Tous les enseignants qui arrivent à l'université sont quand même formés à ce type de handicap qu'ils peuvent rencontrer dans leur amphi, en fait.
Et ça, est-ce qu'il y a une demande aussi de la part des enseignants? On peut penser aussi que pendant l'épisode Covid, il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont eu des problèmes nouveaux, en fait, des problèmes psychiques nouveaux. Mmh. Et peut-être que ça peut mettre, en tout cas, questionner certains enseignants ou les mettre en difficulté parce qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi il y a telle réaction en face, qu'est-ce qui se passe.
Ben oui, après c'est sûr qu'on l'a vu avec le Covid que il y a eu, comme vous le disiez, pas mal de troubles psychiques qui sont apparus liés à cette situation. Beaucoup de questionnements des enseignants, c'est vrai. Je pense que la réflexion aujourd'hui, des enseignants, il y aura toujours de tout. Il y a ceux qui veulent vraiment aider. Vraiment à vouloir comprendre et qui vont contacter les référents handicap de leurs composantes et chercher à comprendre et à avoir un lien avec l'étudiant, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, il reste ceux qui se sentent moins concernés par ça. Après, nous, on essaye vraiment d'avoir une communication envers eux, de leur montrer en fait qu'on existe, qu'on est là. Et on encourage aussi les étudiants à échanger avec leurs enseignants. On leur dit aussi de faire un pas vers eux. C'est vraiment dans les deux sens. On dit oui, les enseignants ils doivent aller vers l'étudiant, mais on dit aussi aux étudiants essayez quand même d'avoir un lien avec eux parce que ça favorise en fait le dialogue et la mise en place des aides. Mais nous, après, les enseignants, on a aussi un lien avec eux quand on a besoin de faire des rencontres en équipe pluridisciplinaire. On arrive à avoir des échanges.
Alors, est-ce qu'il y a des étudiants hospitalisés, par exemple ?
Oui, il y en a. Il y en a qui sont hospitalisés, mais qui arrivent quand même à venir du coup en présentiel à leur partiel. Voilà. Après, l'organisation des examens dans un hôpital, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais oui, il y en a qui sont hospitalisés, ouais.
Donc là, comment ça se passe? Parce que c'est un cadre autre, l'hôpital aussi, qui est compliqué.
Oui, en fait, il y a toute une législation qui existe où vous pouvez... Alors après, c'est une mise en lien avec l'hôpital, où en fait vous déportez l'examen, l'organisation de l'examen, donc il faut prévoir les mesures, l'arrivée du sujet, la surveillance, mais c'est possible.
Une autre question, c'est de dire, donc on a parlé là des mesures, des aides matérielles, des aides humaines, donc des certains handicaps qui nécessitent des besoins particuliers. Mais alors, il y a autre chose, c'est l'accessibilité donc aux locaux. Mmh. Parce que des fois, il y a des salles qui sont situées peut-être en haut d'un escalier. Donc là, qu'est-ce que...
Pour les examens, en général, c'est systématiquement mentionné, l'accessibilité des locaux. Donc là, ils savent très bien que les locaux doivent être accessibles pour la personne. En revanche, pour les cours, des fois, c'est un peu plus compliqué. Parce que, bah, en fait, ceux qui font les emplois du temps n'ont pas forcément en tête cette mention. Donc, il arrive qu'on ait des soucis. L'étudiant nous en fait part. On contacte la composante et on leur dit, bah, attention, là, vous avez mis une salle qui n'est pas accessible du tout. Donc il faut faire attention et si vous, est-ce que vous pouvez en prévoir une autre? Est-ce qu'il y a possibilité? On arrive toujours à trouver un moyen de s'arranger et de rendre les locaux accessibles le plus possible. Mais des fois, bah, on a des cours qui ont lieu entre les Tanneurs et Fromont. Bon, bah là, on a beau le dire, ils sont saturés au niveau de la place. Ça, c'est le problème, en fait. C'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants hein, qui étudient à Tours aussi. Sauf que les locaux, ça grandisse pas. Et il y a de plus en plus d'étudiants en situation de handicap aussi. Donc, de trouver un compromis entre tout le monde, c'est pas forcément très simple. Mais quand, en tout cas, on nous fait remonter l'information, nous, on va tout de suite intervenir pour faire en sorte que l'étudiant puisse accéder à ses cours. Et puis, on essaye aussi de favoriser le plus possible l'accessibilité, même des bâtis, hein, de l'université. Après, il y a des sites qui sont plus ou moins accessibles parce que plus ou moins récents aussi. Donc, mais s'il y a des soucis d'accessibilité, on dit aussi aux étudiants, bah, dites-le nous dans tout ce qui est les locaux. Et nous, on fait remonter au service immobilier, qui sont en charge de l'accessibilité des locaux de l'université.
Ça devient l'intrigue devient complexe. Alors, c'est-à-dire qu'il faut demander à un autre service qui est le service immobilier.
Oui.
Du coup, c'est.
Bah après, c'est sûr que nous, ça dépend pas de nous. Enfin, avec ma collègue, on peut pas partir avec notre marteau et voilà. On peut pas. Ça dépend de plus de d'autres instances à l'université. Après, en tant que telle, l'université Tours est accessible. Elle répond en fait aux normes qui sont demandées par rapport au handicap. Mais oui, vous avez des sites comme Fromont ou les Tanneurs. Oui, en termes d'accessibilité, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais parce que les locaux sont là depuis X années, que dans les années 70, vous preniez pas en compte la loi de 2005, forcément. Donc on se retrouve à devoir adapter en fonction d'un bâtiment existant. Donc on essaye de faire au mieux. Nous, quand on peut faire de la petite adaptation au quotidien, de mettre des rampes, mettre des bandes réfléchissantes, donc on va aller le faire avec ma collègue. Mais tout ce qui va être sur le bâti, moi, s'il faut mettre une porte automatisée, je peux pas le faire, en fait. Mais je fais remonter l'info.
C'est déjà beaucoup. C'est-à-dire, si vous-même vous allez mettre des bandes
Ah
réfléchissantes,
bah
tout
on
ça,
essaye, ouais.
bon, voilà, bon,
Mettre des
c'est.
sonnettes, par exemple à la BU des Deux Lions, il y avait eu un souci, c'était qu'en fait, les portes sont très très lourdes et pas encore automatisées. Donc on s'est dit, avant les travaux de réhabilitation, il faut qu'on trouve une solution. Donc la solution, ça a été de mettre une sonnette qui en fait apporte un signal lumineux pour pas déranger en fait le personnel et les étudiants dans la bibliothèque. Et une fois qu'ils voient ce petit signal lumineux, ils se disent, ah ben il y a un étudiant qui a besoin qu'on lui ouvre la porte, et ils y vont. Comme les Tanneurs, hein. Les Tanneurs, pour accéder à la BU, c'est quand même hyper compliqué. Donc on a fait tout un travail de. Parce que voilà, il va y en avoir des travaux à la BU des Tanneurs, mais pas tout de suite. Donc on a dû faire tout un truc un peu de fléchage pour que les étudiants se disent, ah ben l'ascenseur, il faut que j'aille le prendre là, mais au moins qu'on rende. L'accès par des panneaux, dire c'est par là en fait, qu'on les laisse pas sans indication, sans rien, c'est sûr que c'est pas top, mais on essaye de faire au mieux par rapport aux remontées qu'on peut avoir selon les étudiants et selon leur type de handicap aussi.
Donc on voit toute la complexité de vos missions en fait. Il faut s'adapter. Donc il y a plein de handicaps, il y a des sites qui sont très différents, il y a des normes, il y a du budget aussi, parce que j'imagine qu'installer certaines choses, ça coûte des sous, donc du coup ça prend du temps aussi, tout ça.
Bah oui, ça prend du temps. De septembre à juin, on est bien occupé, hein. On est bien occupé là-dessus, oui, non, mais après, On essaye d'être les personnes ressources pour les étudiants aussi. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on les rencontre en début d'année, on met en place des aménagements, mais on leur dit bien, si à tout moment de l'année, vous avez besoin de revenir vers nous, s'il y a quelque chose qui ne va pas, revenez vers nous. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, c'est vrai qu'on ne peut pas les contacter tous les jours. Nous, on en a vu de 160, je crois. On n'est que deux. Donc, on ne peut pas aller leur demander comment ça va, comment ça se passe. On leur met les aides dont ils ont besoin. On reste disponible et on essaye d'être le plus réactive possible dès qu'ils nous sollicitent et surtout de répondre à leurs demandes. De ne pas les laisser sans rien et de faire en sorte que leurs études se passent bien avec les aménagements qu'on va leur proposer.
Ah, mais est-ce qu'un étudiant peut aussi, ou une étudiante peut avoir peur aussi de vous dire bah, « ça n'arrive pas, ça ne marche pas Peut-être que ce n'est pas facile aussi de dire bah, « ils ont mis en place des choses et malgré tout, il fait un problème, du coup peut-être que c'est difficile de... »
Bah après, nous, on met en place les aménagements qu'on a définis avec lui. Si ça va pas, c'est sûr que s'il ne nous le dit pas, ouais, on va pas pouvoir le savoir, ça c'est clair. Après, il est venu jusqu'à nous une première fois. Donc, on n'est pas joignable que par téléphone, on a le mail aussi. Si jamais c'est trop compliqué de le dire... le mail, ça permet aussi de différer, mais nous, on essaie justement de répondre tout de suite et de reprendre contact avec l'étudiant s'il y a besoin. Les référents handicap aussi dans les composantes sont là pour aussi quelque part avoir un œil et être notre relais, parce que ils sont dans les scolarités, ils sont dans les secrétariats, ils sont plus proches, ils sont, enfin oui, physiquement, ils sont dans les locaux où étudie l'étudiant. Donc, on leur dit bien aussi aux étudiants, ces personnes-là. Elles ont cette casquette de référent, elles peuvent vous aider en fait dans votre quotidien. C'est aussi des personnes ressources que vous pouvez aller voir. Et des fois, les référents handicap nous disent « Ah bah, il y a cet étudiant, il est venu nous voir, il m'a dit que si, que ça. » Du coup, nous, ça nous permet hop, de reprendre contact et d'avoir le lien.
Je me tourne vers Carla aussi, parce qu'il me semble qu'il y a des étudiants en relais santé handicap aussi qui peuvent être là pour ces étudiants-là.
Oui, tout à fait. Donc cette année, la mission handicap a créé, on va dire, un nouveau poste, donc étudiant relais handicap. Donc je suis toute seule et on va dire que j'ai des missions. Ma mission principale va être surtout de sensibiliser les étudiants au handicap, et notamment sensibiliser les étudiants pour devenir étudiants accompagnateurs des étudiants en situation de handicap. Donc c'est pour tout ce que Morgane a dit tout à l'heure, donc ça sera la prise de notes, au tutorat, secrétariat d'examen. Et ensuite, j'ai aussi d'autres missions qui vont notamment être de participer aux actions mises en place par Morgane et Sarah et le SSU Donc là, dernièrement, pour faire un petit retour d'expérience, j'ai participé à la journée portes ouvertes de l'université. Donc voilà, donc il fallait présenter l'ESSU, présenter la mission handicap et le rôle et la bonne action d'être étudiant accompagnateur.
Alors pourquoi, enfin, vous avez eu envie, vous, d'être étudiante relais handicap?
Ouais, alors l'année dernière, je suis arrivée l'année dernière à l'université de Tours, et en fait, on a des petits mails qui passent dans nos boîtes par le service handicap qui nous propose en fait d'accompagner donc les étudiants en situation de handicap. Et voilà, donc j'ai contacté les filles, et la relation s'est bien passée. J'ai trouvé hyper enrichissant l'expérience en fait d'accompagner. J'ai pu accompagner notamment une personne malvoyante pour être sa secrétaire d'examen. Et voilà, et donc en fait, après, tout naturellement, bah, vous m'avez proposé pour cette année le poste. Et voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on dit aux autres étudiants? Est-ce que vous expliquez de leur apprendre pourquoi c'est bien, que c'est une bonne action de comment dire d'accompagner d'autres étudiants? Mais voilà, après l'humain étant ce qu'il est, peut-être que c'est pas ça suffit pas de dire c'est bien de le faire. Du coup, qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre?
Qu'est-ce que je vais leur dire? Bah, j'insiste vraiment sur le fait que c'est une bonne action, que pour eux, c'est qu'en plus, aider une personne dans le besoin, c'est que bénéfique pour tout le monde. Et voilà, on insiste vraiment sur ça. Après, on va pas se le cacher, ça passe comme un job étudiant aussi.
Non, puis en fait, il y a aussi, faut avoir en tête que une situation de handicap, enfin, c'est pas que de naissance, hein, le handicap, hein. Ça survient au cours d'une vie. Donc, il faut aussi se dire que, ben, quand on accompagne quelqu'un, si j'étais à la place de cette personne, est-ce que j'aimerais pas aussi me faire accompagner et me faire aider en fait par l'un de mes pairs? Donc, c'est ça aussi de se dire que, ben, on peut se retrouver aussi de l'autre côté. Ce qui nous est déjà arrivé, hein. Nous, on a eu des étudiants en situation de handicap qui ont voulu devenir étudiants accompagnateurs pour me dire, bah, moi, en fait, je pensais pas un jour me retrouver dans cette situation. Et on m'a aidé. Et moi, j'ai envie d'aider à mon tour parce que, ben, du coup, c'est quand même chouette d'avoir l'aide d'un de ses pairs et de pas se retrouver tout seul. D'avoir aussi un soutien de la part d'un autre étudiant. Je crois que c'est ça aussi le message que tu fais passer, c'est vraiment l'aide entre les pairs. C'est comme ce que tu fais en début d'année quand tu. Parce que nous, c'était aussi notre besoin, c'était qu'au mois de septembre-octobre, on a les nouveaux arrivants qui ont besoin d'aide pour se repérer sur le campus et qui, de par leur handicap, c'est très compliqué pour eux la rentrée. Et Carla, elle a aidé des étudiants sur site à se repérer, à découvrir un peu les locaux, à se sentir rassurés. Et ça a été aussi une mission que tu as pu faire et
Et ça prenait vraiment la solidarité, on va dire, entre étudiants et de voir en fait qu'ils ont les étudiants en situation de handicap, ils ont plein de questions, ils ont plein d'interrogations, de peur face à l'université, surtout quand ils viennent d'arriver sur le site et de voir qu'il y a Morgane et Sarah qui sont là pour les accompagner, mais il y a également un étudiant qui est là pour répondre aux questions, qui est là sur le site avec eux. Bah, c'est hyper rassurant et ça leur permet de vraiment bien commencer leur vie universitaire.
Il y a des questions, par exemple, auxquelles on ne s'attend pas quand on n'est pas concerné par le handicap. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'imagine pas, en fait, que ces étudiants peuvent vous poser?
Là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête. Après, oui, il y a des questions qui peuvent être un peu déroutantes, surtout quand c'est des questions qui vont être vraiment spécifiques sur le handicap, parce que des fois, ils peuvent penser que vu qu'on a l'étiquette, enfin que personnellement j'ai l'étiquette relais handicap, donc ils pensent que je connais tout, alors que bah pas du tout. Enfin moi, l'année dernière, c'était la première fois que j'étais vraiment en contact avec des personnes malvoyantes ou des personnes qui avaient une maladie. Donc bah des fois, c'est un peu déstabilisant. Mais justement, enfin c'est ce qui me fait, on va dire, le charme de cette mission qui m'est confiée.
Et donc cette mission, on entend hein, que ça vous tient à cœur. Est-ce qu'il y a un lien avec vos études ou est-ce que vous pensez que ça peut influencer peut-être vos choix futurs?
Un lien avec mes études, indirectement oui, parce que je fais un master de psychologie du travail. Donc oui, et tout ce qui va être entraide, solidarité, effectivement, je suis dedans depuis le début de ma vie universitaire. Et oui, ça influence aussi mes choix parce que la question du handicap, je commence à la comprendre et à avoir des réponses. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, me tourner un jour vers l'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap, effectivement.
Je vois un haussement de sourcil du côté de Morgane.
Ah ben moi, je valide complètement. Je valide ce choix de ta part d'aller vers le handicap. Hein, c'est...
Et alors, est-ce qu'il y a un mot peut-être sur les actions à venir? Parce que vous préparez plein d'événements toute l'année.
Oui.
Alors peut-être que vous avez des actions...
Tout à fait. Nous avons notamment... Eh ben, le spectacle Sens qui a lieu à Télème, à Salle Télème, pardon, le jeudi 10 février à 20h30. Donc c'est le spectacle s'appelle Sens, sur les cinq sens notamment, avec cinq histoires qui vont porter sur le thème de l'amour, la sexualité, le handicap, l'homosexualité, l'altérité, tout ça. Et en fait, bah c'est un spectacle qu'on n'a pas pu, enfin qui était programmé il y a 2 ans, pour tout dire, qui n'a pas pu être fait du coup, et qui bah là va avoir lieu jeudi prochain. Les inscriptions sont possibles du coup bah sur le site de l'université, c'est dans les actualités. Donc ça c'est un spectacle bah, qui voilà. Nous tient à cœur et pour l'instant, ça, les inscriptions sont là. Donc, on les espère encore nombreuses. Donc ça, c'est vrai que c'est notre prochaine action. On a aussi le lendemain, le vendredi 11 février, on a un atelier d'initiation à la langue des signes française qui aura lieu de 9h à midi, qui est également sur inscription. Mais là, ne cherchez pas, vous pouvez plus vous inscrire. On a été victime de notre succès on a eu plus de 150 inscriptions en 1h30. Ça a été assez fou, mais on le sait, on l'a déjà fait cet atelier et il marche très très bien. Donc c'est un atelier qui sera animé par Monsieur Guérou, qui est un enseignant en fait, qui lui enseigne la LSF en sciences du langage. Et donc là, on lui a demandé, et ce sera lui qui animera du coup cet atelier au Tanner également. Après, on a pour projet de refaire, parce que ça, on en a déjà fait un repas à l'aveugle. Du coup, sur le site de Grandmont, il nous reste à voir au niveau de l'organisation et de la date, mais on voudrait qu'il ait lieu en mars. Mais pour l'instant, il faut qu'on puisse... commencer l'organisation de ce repas. Donc, le repas à l'aveugle, c'est vous manger les yeux bandés. Voilà. Et de se mettre dans les conditions de quelqu'un qui ne voit pas. Pour sensibiliser, pour se mettre à la place, le vie ma vie. Et ce qu'on fait pendant ce type d'atelier, c'est qu'en général, il y a un étudiant non-voyant à qui on demande de venir. Qui est là pendant le repas et qui partage le repas avec les autres étudiants et qui va un petit peu raconter sa vie, ses ressentis. Et les temps d'échange pendant ce type de repas sont très très riches parce qu'il y a vraiment des questions qui peuvent être posées et j'en ai une en tête. C'était une étudiante qui avait assisté au repas et qui avait dit à l'étudiante non-voyante, mais... Enfin, tu nous dis que tu voyages, mais enfin, vu que tu vois pas, qu'est-ce que tu retiens en fait de tes voyages? J'avais trouvé la question assez au début déroutante, puis après je me suis dit bah oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on retient en fait quand on voit pas? Et elle lui avait expliqué du coup tout ce qu'elle retenait de ses voyages, que ça passait par le côté culinaire, le côté des odeurs, de en fait pour elle voyait les choses par d'autres sens. C'était des échanges du coup qui avaient lieu entre l'étudiant qui avait cette situation de handicap et les autres. C'était vraiment il y avait pas de questions taboues, quoi que ce soit en fait. C'était vraiment il y avait un échange entre tous et c'était ça qu'on voulait faire passer comme message et c'est ça qu'on veut faire passer dans ce futur repas qu'on souhaite mettre au mois de mars. Et on sait, voilà, c'est toujours très prisé et ça marche plutôt bien. Après, on a aussi une action à la BU des Tanneurs qui s'appelle Parcours ta BU d'un autre point de vue. Et là, ce sera un parcours en fauteuil pour aller à la recherche d'un ou plusieurs ouvrages et pour se rendre compte de comment ça se passe quand on doit chercher un ouvrage qu'on est en fauteuil. Et que ben voilà, il faut demander de l'aide. Surtout nous, ce qu'on veut faire passer comme message ce jour-là, c'est aussi les étudiants accompagnateurs hein, qu'on cherche toujours à recruter, de leur dire l'importance en fait qu'il peut y avoir dans le fait d'aider les autres. Et puis voilà, d'aider les autres, que ce soit dans le milieu universitaire, mais dans la vie de tous les jours aussi. Et puis, on a aussi la dernière action qu'on a prévu de faire, ce sera certainement sur le site des Deux Lions. C'est une action handisport. De toute façon, là, tout ce que je vous ai énuméré, c'est des actions qui devaient avoir lieu il y a 2 ans, hein, mais qu'on n'a pas pu faire. Donc là, on avait une action handisport qui était prévue avec Monsieur Porcheron, qui est un enseignant en fait, de l'IUT qui anime la. Ah, j'ai perdu le mot. Le l'action le
Antisport, non?
non c'est le qui anime l'UE voilà c'est ça l'UE c'est qui anime l'UE handisport le handibasket je vais y arriver voilà
Et ça consiste en quoi cette UE Handy Basket?
et ben en fait c'est tous les jeudis après-midi et en fait c'est du basket en fauteuil. Donc c'est pas réservé que pour les personnes en fauteuil. Non, non, c'est aussi pour des personnes qui sont valides. Il y a donc des fauteuils de spécial basket, je dirais, qui sont à disposition et vous jouez au basket en étant en fauteuil. Et ça, c'est tous les jeudis de 16h à 18h, si mes souvenirs sont bons. Et donc, c'est un enseignant, Monsieur Porcheron, qui est très très impliqué au niveau de tout ce qui est handisport. Il a beaucoup de connaissances sur ce sujet et on l'avait sollicité il y a 2 ans pour mettre en place une action handisport à l'université. On avait notamment prévu le handi-basket sur le site des Deux Lions, donc du coup en fait sur le parvis entre la BU et les bâtiments des Deux Lions. Il y avait aussi le Cessi Pétanque qu'on avait envisagé, enfin il y avait plein d'autres. En tout on avait sélectionné trois activités, à voir si on définit les mêmes pour le mois d'avril. Voilà, c'était par le biais du sport de montrer aussi que on peut avoir une situation de handicap. On peut quand même faire du sport. Et donc voilà. C'était ça, c'est. On aimerait bien le faire au mois d'avril, mais voilà, il faut. Là, on est en train de se remettre en lien avec lui pour voir ce qu'on va pouvoir faire.
Et alors, est-ce qu'il y a peut-être des pistes d'action ou des souhaits, des doléances que vous aimeriez formuler pour l'année à venir, pour les années à venir?
Oui. Alors, on en a une surtout par rapport à la sexualité et le handicap. Ça, c'est un thème qu'on aimerait aborder avec Madame Le Gouguec, qui est notre conseillère conjugale et familiale au SSU, parce que on trouve que c'est un thème qui doit être abordé et qui ne l'est, enfin, parce que ça ne l'est pas. On n'en parle pas. Donc, elle, comme nous, on trouve que c'est quelque chose à mettre en place autour d'une soirée débat. Donc, on aimerait mettre ça en place pour l'année universitaire à venir. C'est vraiment, on est encore à l'idée de. Juste l'idée d'idée. Hein. On n'est même pas encore dans le projet à proprement parler, mais c'est quelque chose, en tout cas, qu'on va faire sur l'année 2022-2023. Ça, c'est sûr.
Et là, peut-être qu'il y a un relais à faire avec le planning familial.
Alors là, je ne sais pas encore. Là, je pourrais pas vous dire, mais peut-être aussi le travail avec les gynécos, du coup de notre service, qui certaines sont en lien aussi avec le CGID, donc notamment. Donc oui, ça peut éventuellement être une idée.
Et je pense aussi de, comment dire, selon la date à laquelle vous souhaitez faire cette soirée, peut-être un lien avec le festival Désir-Désir.
Oui, effectivement, ouais. J'en ai déjà entendu parler, mais je sais plus quand est-ce qu'il a lieu.
Il avait lieu il y a 15 jours, là, je crois, il y a une semaine, 15 jours, donc
D'accord.
c'est à ce moment-là de l'année,
Ouais.
puisque c'est le désir dans tous ses possibles. Donc pourquoi pas celui-là?
Oui, ah bah complètement. Après, on essaiera effectivement de choisir une date assez opportune, effectivement, si ça peut être si ça peut coïncider avec avec ce type d'événement et ajouter, on va dire, du crédit complètement, ça c'est sûr. Mais après, nous, c'est vrai que nos actions, elles ont essentiellement lieu de janvier à avril, parce que c'est vrai que de septembre à décembre, avec ma collègue, on est très, 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 très prise, dans les rendez-vous, les mises en place des aides. Mais en général, de janvier à avril, on arrive toujours à se dégager du temps pour, pour mettre en place nos actions. Peut-être que l'année prochaine, on fera quelque chose de plus petit, mais qu'on renouvellera l'année d'après en se greffant peut-être aussi à d'autres événements plus importants. C'est possible, je ne sais pas. Mais une bonne piste à suivre.
Voilà. Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres idées que sur lesquelles vous travaillez?
Bah, on voudrait aussi mener des actions sur le site de Blois, parce que pour l'instant, on n'en a jamais mené. Ben, nous on va faire le point en fait avec notamment notre infirmière hein, qui est là-bas et les étudiants relais santé qui sont là-bas. On a notamment rendez-vous avec eux bientôt pour faire remonter un petit peu des idées parce que les actions qu'on va mener à Tours sont peut-être pas forcément celles qu'on doit mener à Blois aussi pour plein de raisons. Et on voulait partir en fait, du ressenti des étudiants relais santé qui sont vraiment sur le terrain pour voir un petit peu ce qu'il était possible de faire. Donc ça va être notre objectif pour l'année à venir, ça va être d'en développer là-bas. Après, ce qu'on veut, mais ça c'est ce qu'on voudra tout le temps, et c'est j'ai envie de dire un travail, mais tout au long de l'année, c'est de développer encore et encore la sensibilisation auprès des enseignants. De continuer à être le plus présente, mais on ne peut pas les solliciter sur une action. Les enseignants, ils sont très pris et c'est compliqué de les faire bouger sur quelque chose. On pourra le faire, en tout cas, on va essayer de l'envisager. Mais ce qu'on veut surtout, c'est continuer de diffuser notre message, surtout de notre disponibilité, de l'échange qu'on leur propose dans l'intérêt des étudiants, de connaître mieux les types de handicap. Donc ça, c'est vrai que c'est une réflexion qu'on est en train de mener actuellement. On se dit comment, en fait, les interpeller? Est-ce que c'est via une action? Est-ce que c'est via des formations? Est-ce qu'on sait qu'ils sont très pris? On sait que... Donc, on sait qu'on veut continuer la diffusion de notre message. On ne sait pas encore par quel biais, mais ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer de mener.
Voilà, merci. Eh bien, je vois que cette émission va déjà toucher à sa fin. Reste à vous souhaiter la meilleure journée possible à l'écoute de nos programmes. Et puis, merci beaucoup d'être venu dans ce studio.
Merci.
Merci à vous.
ملامسة الحياة الجنسية ما فيش ملامسة Yeah.